J'ai dit ce que j'ai écrit sans titre ce livre. Je l'ai écrit sans titre parce que parfois, j'ai une éditrice, on s'adore, donc je sais qu'elle a des opinions très tranchées. Donc si moi j'ai pas un titre très tranché que je veux défendre, je m'embête pas, j'écris le roman, puis après j'ai réfléchi avec mon éditrice, on réfléchit ensemble, et là c'est elle pour le coup qui a tiré ce titre d'un passage du roman où il dit mes amis et moi n'étions pas des saints. Moi ça me plaisait, cette dichotomie des diables et des saints, parce que c'est vraiment un petit peu ironique, dans la mesure où ça parle d'un établissement qui est dirigé par des religieux. Ces religieux ont la prétention de dire qui est diable et qui est saint, sachant que eux se considèrent comme étant les saints. Et on voit évidemment que la réalité est beaucoup plus compliquée que ça, et que personne n'est jamais complètement diable et personne n'est jamais complètement saint. Et c'est tout le danger de cette approche de voir le monde soit en noir, soit en blanc. Donc il y avait un petit côté ironique au titre, un peu mon cœur qui me plaisait.
Du coup, un budget d'écriture en particulier ?
Non, j'ai pas de budget d'écriture. Mon budget d'écriture, c'est de m'asseoir et d'écrire en fait à mon bureau. Et puis j'écris aussi beaucoup dans ma tête, en marchant, en lisant. Voilà, les choses se construisent. Mais j'ai pas de budget d'écriture en particulier. Très disponible pour l'écriture. Quand je m'y mets, je ne fais que ça et j'ai besoin de calme, j'ai besoin de silence. Souvent, j'écris dans mon bureau, quasiment exclusivement dans mon bureau. Je n'écris pas dans mes bars, je n'écris pas dans mes trains, je n'écris pas en public. Mais je pourrais écrire n'importe où tant que j'ai du silence et que je ne suis pas en mouvement constant. En fait, j'ai besoin de concentration et d'être dans un état de zen presque, voilà, de pouvoir ne faire que ça.
Concernant ta maison
d'édition. Vas-y, non, attends, là, ta voix pose là sans micro, je vais la répéter la question. Comment j'ai choisi la maison d'édition et après okay. Et donc, comment j'ai choisi ma maison d'édition, qu'est-ce qui me plaît dedans et est-ce que je compte y rester? Alors, j'ai choisi la maison d'édition parce qu'on m'avait dit qu'on en avait parlé, en fait, je ne les connaissais pas. Ils avaient publié pendant 20 ans des gros livres d'histoire et d'art et ils voulaient faire des rentrées littéraires. Et donc, je les ai rejoints à ce moment-là et en fait, cette maison d'édition dans les chronoclastes. Et une maison d'édition. La maison d'édition qui connaît la plus forte croissance ces dernières années en France. Ils ont publié des livres qui ont très bien marché. Ils sont, c'est vraiment très familial. J'ai une relation extraordinaire avec eux. J'ai une relation directe de mon éditrice, qui est la patronne de la maison d'édition, Sophie de Sivry, jusqu'à chacun intervenant, la directrice commerciale, la fabrication. C'est toute une grande famille qui travaille autour d'un projet qui est le livre. On travaille tous autour du même bouquin. En tant qu'auteur, on se sent extrêmement protégé, extrêmement défendu. Et c'est vraiment qu'on travaille avec une famille, c'est un truc extraordinaire. Je sais que j'ai peu d'amis auteurs qui ont la chance d'avoir ce rapport avec leur éditeur, parce que souvent, ils peuvent être sur des éditeurs très gros et très prestigieux, plus connus du grand public. Mais en fait, ce sont des très grandes entreprises, donc il n'y a pas du tout le même rapport humain. Et l'avantage aussi de votre cas, c'est que c'est une maison qui a quand même des moyens financiers et qui peut faire les choses très bien, qui est armée pour défendre des livres, et c'est grâce à eux que mes livres sont eu le succès qu'ils ont eu. Je pense que sans eux, les mêmes livres auraient pu, par contre, leur public se perdre. Donc je suis très très attaché à la maison de Vodcast et bien sûr que je compte y rester. En recherche, j'ai déjà répondu. Alors oui, je suis à la fin de l'histoire. Alors, je n'écris que parce que j'ai la fin. Je l'écris que parce que je sais où je vais. En fait, si vous montez en bagnole pour aller d'ici à la mer, vous n'allez pas monter dans la voiture et prendre une route à l'instinct, puis vous dire par là je dois tourner. Enfin, il vous faut des repères. Si vous voulez arriver au bout de votre voyage sans avoir perdu un temps fou, et, ou alors sans jamais y arriver. Donc pour moi, c'est très important, oui, de connaître la fin de l'histoire, de connaître le début de l'histoire, de connaître le milieu de l'histoire. Et aussi de connaître ce qu'il y a entre le début et le milieu, et entre le milieu et la fin. Donc c'est comme de construire un pont, en fait. Je construis vraiment les piles de l'histoire qui vont traverser cette rivière, en fait, le voyage de mon héros. Et après, l'écriture même, c'est quand je mets le tablier du pont, je touffe, mais je sais qu'à chaque fois, je vais retomber sur des piliers, et pas dans l'eau. Et dans l'écriture, je peux me permettre, entre deux piliers, d'improviser un peu, parce que je sais où est le prochain pilier. Voilà, donc c'est très important pour moi d'avoir la structure. C'est très très important, c'est une chose que j'ai apprise à Sciences Po, de structurer la pensée, de comprendre, on commence à parler, de savoir où on va et ce qu'on veut dire.
Quand est-ce que vous passez de l'écriture pour le scénario, vous passez de l'écriture ?
Quand est-ce que je suis passé à l'écriture de scénario, c'est de livre et pourquoi? Je suis passé en 2016 parce que je commençais à en avoir assez de travailler dans le cinéma où tout était censure, enfin auto-censure. Chaque fois que j'écrivais dans le cinéma, je me demandais est-ce que c'est réalisable, est-ce que ça va coûter trop cher, est-ce que qui est le public cible. Enfin, il y avait plein de considérations marketing et techniques qui n'ont rien à voir avec la création, qui n'ont rien à voir avec le fait de raconter l'histoire. Et j'en ai eu assez. Et en plus, quelqu'un m'a dit que ce que je faisais était très bien, mais trop original. Et ça me posait un gros problème. Parce que je croyais que le métier d'écrire, c'était quand même d'essayer d'être un petit peu original, qu'on n'y arrive pas. Mais en tout cas, l'idée de devoir me dire est-ce que ce que j'écris est trop original, c'est complètement dément. Et donc, je réfléchissais à un roman depuis quelques années, mais j'avais rien. J'avais deux gamins et une station-service. C'est tout ce que j'avais. Quand on m'a dit ce que j'écris est trop original, ça m'a tellement désespéré, donc en cinéma, ça m'a tellement désespéré que ça a débloqué le roman Marraine. Tout d'un coup, deux semaines après, j'ai vu ce roman se déployer en moi, dans ma tête, donc je connaissais la fin, le milieu, et je suis rentré chez moi, je l'ai écrit d'un seul jet pendant un an et demi, celui-là, c'était plus court. Et voilà donc quand ça s'est passé, comment ça s'est passé en 2016, en 2016, en, je pourrais te dire très exactement en mai 2016.
Justine de Saint-Sernin.
Félicitations à Saint-Sernin pour votre victoire au quiz. J'ai un rôle qui sont jaloux là. Allez, levez la main plus vite. Entre les trois et chacun de mes livres et me représente à 100% au moment où je l'ai écrit. Donc je vais te dire que évidemment le dernier est le plus complexe, le plus abouti, le plus élaboré, le plus technique. Alors il y a forcément, si vraiment je devais aller en choisir qu'un avec un flingue sur la tempe, je choisirais le dernier. Mais le dernier n'existerait pas sans les deux précédents. Et puis ils ont chacun en fait leur spécificité, le deuxième est très différent. Voilà, donc c'est un peu difficile de répondre à la question.
Écrivez-vous seulement des livres ou faites-vous autre chose à côté, comme dans une passion, occupation?
Tu veux dire pour vivre ou genre le plaisir dans la vie? J'adore la musique, j'adore la montagne, j'adore la nature, j'adore les animaux. Je passe beaucoup de temps à me balader à droite et gauche avec mon épouse. Et on est vraiment très grand fan de nature, de montagne, de choses comme ça. Et après, techniquement, professionnellement, maintenant j'écris essentiellement des livres, je fais aussi de la traduction, ce que j'ai toujours fait. Moi je vis de ce métier au sens large, c'est-à-dire traduction, cinéma et littérature depuis 1996. J'ai jamais eu un vrai boulot, ce qu'on appelle un vrai boulot. Voilà, puis oui, j'écoute, j'adore la musique, enfin, musique, nature, je dirais que c'est les trucs les plus importants dans ma vie. Est-ce que mes proches participent à l'écriture de mes romans? Non. Enfin, je teste mes idées sur mon épouse. Et mon épouse est anglaise, donc je ne peux pas complètement lui dire en français les choses. Donc je traduis un petit peu certains passages essentiels pour voir si ça fonctionne. Donc elle a une idée du déroulé, elle a une idée de la construction du roman, où il va, elle le suit pendant la création. Mais après, la personne qui lit vraiment le roman en français et qui me donne le retour dessus, c'est mon éditrice. Et après, mes proches et mes amis et ma famille, je refuse absolument qu'ils lisent quoi que ce soit avant que le livre soit publié, avant que le roman soit vraiment sous la forme d'un objet comme ça. Parce que la perception des gens est différente. Si tu remets un roman, si je remets ce roman, n'importe lequel, à quelqu'un qui est imprimé sur des pages A4, qui sort de mon imprimante, pour eux, c'est pas un vrai livre, ils vont commencer à chercher des trucs qui leur plaisent pas, etc. Juste parce qu'il y a un réflexe naturel, en plus ils me connaissent. Donc ils me cherchent dans les livres, ils cherchent ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Et c'est très marrant d'ailleurs comme phénomène avec les proches. Donc mes proches, je ne les invite pas, à part mon épouse qui ne réagit pas comme ça, et je leur donne le livre fini, et résultat, ils ont un livre dans les mains, ils ne peuvent pas rien dire, à part j'aime ou j'aime pas, et le lire. Et en général, leur perception est complètement différente quand ils ont un livre dans les mains.
Les prénoms des personnages, ils viennent instinctivement, vous les choisissez avant,
Oh oui, en fait, c'est un mélange d'Insta et de je regarde sur Internet aussi, souvent quand c'est historique, par exemple quand c'est là en 69, je regarde les prénoms qui étaient donnés à l'époque, aussi, il y a des listes statistiques, premier prénom, un nombre de noms donnés, donc il y a des listes, donc je regarde un peu les listes, puis je descends dans la liste parce que les premiers, si on les a trop entendus, ça ne paraît pas des noms hyper intéressants. Parfois, je choisis un nom parce qu'il n'est pas intéressant aussi, donc ça dépend de ce que je cherche. En gros, je descends la liste puis je me laisse porter. Et s'il y en a un qui résonne, qui me paraît juste, qui paraît sonner bien avec son époque, sans être complètement de son époque, donc c'est-à-dire sans être trop daté, s'il reste contemporain dans la sonorité, souvent, c'est ça qui me fait le choisir. Après, ça dépend de ce que je recherche. Si je nomme un personnage qui est présent, je ne vais pas forcément lui donner un nom qui me plaît. Voilà.
La famille a
pu... Ah, oui, c'est une bonne question, ça. En fait, ce que je racontais hier, non. Mais c'est-à-dire que ma famille, par amour, parce que moi j'ai une très chouette famille, mais par amour, m'a dit longtemps, non mais ne sois pas écrivain, c'est pas un métier. Et leur idée était que, moi, quand je leur disais qu'à 12 ans que je voulais devenir écrivain, faire du cinéma, ça les terrifiait, ils se disaient, le mec va finir sous un pont, il va jamais y arriver, c'est trop difficile, il va pas avoir une bonne retraite, il va vraiment être clochard. Ma mère me disait ça, tu vas être clochard. J'ai entendu pas mal ça, tu vas être clochard. Et c'était pas pour me menacer ou pour me réprimer, même si en fait le résultat était un peu ça, c'était pour me protéger de moi-même dans leur vision. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, mes parents sont ceux qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont eux qui m'ont ouvert à la lecture, c'est des gros lecteurs. Ce sont eux qui m'ont ouvert à l'art, à la culture. Donc en fait, ils ont exactement fait ce que je suis, et c'est eux qui ont créé en partie, évidemment, ce destin-là, dont ils ont eu peur pendant longtemps. Et jusqu'à mon premier roman, ma mère m'a dit « Quand est-ce que tu vas trouver un vrai boulot ?» Et après, le statut d'écrivain en France étant quand même assez respecté, là, le premier roman m'a assez impressionné pour qu'elle se dise « Ah ouais, quand même, il y arrive. » Ou alors qu'elles se disent, c'est trop tard, on ne récupérera jamais, là, ça devient perdu pour les vrais boulots. Mais voilà, donc en fait, j'ai un peu dû me battre contre une affection qui pouvait être aussi étouffante, en fait, et presque répressive, mais par amour. Voilà. Enfin, il vaut mieux ça que le destin de Joe, enfin, hein, donc, en fait, je vous dis que c'est par amour, mais c'est vrai que parfois, c'est inattendu, en fait. Tu dois te battre contre des gens qui t'aiment et qui pensent te protéger et t'aider, alors qu'en fait, ils te tirent vers l'arrière. Mais il y en a parmi vous qui veulent être artiste, hein. Je vérifie toujours, voilà. Non, mais j'appelle ça de l'art, hein. Tu vois, je trouve ça super, ça, que enfin de voir des gens qui veulent poursuivre des carrières comme ça, c'est génial. L'orfèvrerie, la menuiserie, toutes ces choses que moi j'adore, qui sont de l'art, tu vois, et je trouve ça super. Et tu verras que dès que tu choisis quelque chose d'un peu différent, on va te dire, attends, en orfèvrerie, mince, c'est pas dans la liste d'orientation traditionnelle, ou alors, tu vois, plus tu choisis quelque chose d'inhabituel, plus c'est difficile, et plus ça prouve que ça fait que tu as fait le bon choix. Voilà. Ouais, Pierre.
Est-ce que vous attendiez au succès par rapport à votre roman
Marraine? Oui, est-ce que je m'attendais au succès de Marraine? Alors là, c'est clair, pas du tout. Mais pas du tout. Autant quand j'écris un film, j'espérais que ça marcherait. En fait, Marraine, j'ai vraiment écrit pour moi, pour écrire pour une fois. Je me suis dit, je vais écrire une histoire pour moi. Pas besoin de me préoccuper du marketing, pas besoin de m'occuper des producteurs, du coup de la réalisation. C'est un livre, je l'écris, et là, et j'ai éprouvé une immense joie à l'écrire. Après, je me suis dit, tiens, il est écrit, je vais l'envoyer. Tu vois, sans presque réfléchir, quoi. C'était assez étonnant comme processus, puisqu'évidemment, j'ai déjà un professionnel de l'écriture dans le cinéma. Mais c'était presque comme si j'arrivais même pas à envisager que je pourrais publier un roman. Hein? Je sais pas, je manque pas de confiance en moi. Je m'étais juste dit, c'est pour moi ce truc, ce roman. Et écoute, je l'ai publié, tout d'un coup, mais vraiment ma vie a changé en l'espace de 6 mois. Hein. C'est-à-dire qu'on a énormément parlé de ce premier roman, ça me paraissait même un peu excessif. D'ailleurs, c'était un peu excessif. Il y avait une sorte de phénomène d'entraînement où un journaliste en parlait, et parce qu'il en avait parlé, l'autre journaliste en parlait, donc tout le monde en parlait. Moi je disais, tu sais, sur le droit très littéraire, c'est dur. En gros, il y a 10 premiers romans dont on parle, les autres sont ignorés. Et moi, je faisais partie de ces 10-là, donc tu te sens un peu coupable en disant, mais attends, les premiers romans, il en sort une centaine chaque année, 90, 100. Je veux bien qu'on parle de 10, mais de 11 à 20, ils sont sûrement aussi très bien, et peut-être de mal. Donc, c'était un peu, j'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur au début, de dire, du calme, tout en étant évidemment très flatté, très honoré de ce qui se passait, mais c'est un truc qui m'a un peu dérouté. Oui.
Est-ce que vous préférez
écrire
des scénarios pour le cinéma ou
pour le cinéma? Ah, mais je préfère écrire vraiment à 100%, en fait. C'est comme si je te disais, est-ce que tu préfères faire de la trottinette ou voler? Ah, je vais te dire, je préférerais voler à tout prendre. Et moi, j'ai l'impression de voler quand j'écris un roman et de faire de la trottinette quand j'écris un film. C'est sympa la trottinette, hein. Mais quand si tu as l'occasion de voler, t'as envie de continuer. C'est une telle liberté que c'est incroyable. Alors, je monte après, ouais. Alexandre.
Est-ce que le pensionnat des confins, il est...
Le pensionnat des confins, en lui-même, il est inventé, il est dans les Pyrénées, il est fictif, mais il est le pendant fictif du lieu réel où Gérard, qui est donc j'ai dédié le livre à Gandhi, qui est un orphelinat qui est en Savoie, près de Berville, qui s'appelle La Belle Étoile. Donc, comme moi, je ne voulais pas faire un documentaire, mais je voulais faire un récit de fiction. Je ne voulais rien savoir de précis sur la vie de Gérard, et je ne voulais pas, me situer le livre dans le même lieu, sachant aussi que c'est un livre qui avait besoin d'une frontière entre deux pays, entre la France et un autre pays, à travers des montagnes. Donc j'avais pas le choix, c'était soit les Alpes et l'Italie, puisqu'il y avait le passage du tunnel, soit l'Espagne et les Pyrénées. Dans la mesure où le deuxième roman se passe déjà à la frontière des Alpes et d'Italie, c'était aussi autre raison pour partir dans les Pyrénées avec la frontière de l'Espagne. Voilà. Mais en fait, c'est le miroir, ce lieu d'un lieu qui a existé. Est-ce que je vais faire une suite à Diane Dessin, c'est ça? Écoute, je n'avais pas prévu, mais ce n'est pas une impossibilité intellectuelle en tout cas. Thalys, c'est ça? Alors, comment j'arrive à parler de la musique, hein, parce qu'elle est très forte dans mon roman, et on dirait que j'aime bien très fort. Oui, j'ai un lien très fort. Moi, je suis un musicien frustré, j'aurais adoré être musicien. C'est la seule autre carrière que j'échangerais avec écrivain. Et alors, étant musicien frustré, je suis très bien. Donc, j'avais envie de parler de musique. En fait, c'est ma façon de faire de la musique, ce moment. Je ne peux pas être virtuose d'un instrument, mais je peux essayer d'être virtuose des mots, en tout cas faire de mon mieux pour ça, et c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire en ce moment. J'ai aussi voulu partager le fait que la musique classique est un truc que j'adore. C'est une musique extraordinaire, j'écoute aussi beaucoup de métal, comme je précise, c'est au cas où il y a des fans de métal, et surtout de métal extrême, mais j'écoute essentiellement du de la musique classique. J'avais envie de parler de la musique classique de manière, on pense souvent que c'est très ennuyeux et très prétentieux, c'est l'opposé de ça, de la musique classique. J'avais envie de partager ça, parce que moi j'ai découvert la musique classique tard, à 20 ans, et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout ennuyeux et prétentieux et intellectuel, et j'avais envie de partager ça avec les lectrices et les lecteurs. J'ai une très grande intimité avec cette musique, comme beaucoup de gens frustrés par quelque chose, quand j'ai découvert la musique classique, j'ai dévoré toutes les connaissances que je pouvais trouver sur le sujet, en fait, parce que j'avais l'impression de manquer de connaissances. Et donc, de là, de 30 ans de ça, est venue cette intimité de la musique, et c'est le fait que j'en parle comme ça.
Gérard a-t-il lu des théâtres de dessin qui retracent en quelque sorte son enfance, et si oui, quelle a été sa réaction?
Le début de la question, c'est quoi?
Gérard
a-t-il lu... Ah oui, pardon. Gérard est très intense, hein. Et je lui ai envoyé le livre et j'ai pris une nouvelle. C'est pas que j'avais pas de nouvelles, c'est qu'il avait le livre. Il m'a dit, j'ai commencé ton livre sur la page 50, après j'ai pris une nouvelle, après j'ai une nouvelle qui parle d'autre chose. Et en fait, je me dis, il a dû aimer le livre, quoi, il a dû se sentir trahi. Alors j'avais prévu que c'était une fiction. Et puis un an après, Gérard, il est à Grenoble, je reçois un appel du libraire de Grenoble qui m'invite. Et qui me dit, Gérard Ponson, c'est son nom, il est en librairie, il est extrêmement ému d'être dans votre livre, que le livre lui soit dédié, et ce livre l'a beaucoup ému. Donc j'ai appris comme ça. Et finalement, quand je suis allé, Gérard m'a dit, parce que c'est dur de s'exprimer, comme on parle. Il parle normalement, Gérard, mais parfois, je ne sais pas, il ne pouvait pas me dire au téléphone. Et il m'a dit, un an après, qu'il avait été très ému. Parce qu'il me dit, en fait, être ami dans un orphelinat, c'est être vulnérable. Et donc, on ne voulait pas, et on se tire tous dans les pattes. Donc, son orphelinat, c'est arrivé que des lecteurs de lectrices viennent me voir en salon en me disant, ah ben, vous chargez un peu de la bulle, il est un peu caricatural, cet orphelinat. Et moi, je leur dis, vous devriez parler au type qui en sort, parce qu'il vous dira qu'en fait, il est beaucoup plus sympathique dans l'orphelinat que l'orphelinat où il a vécu. Voilà. Ce que je voulais, parce que moi, je ne voulais pas, comme j'ai dit tout à l'heure, écrire un truc qui déprimerait tout le monde, qui me déprimerait moi. Je voulais écrire un truc en aventure, une histoire d'amour, un roman sur la musique, le génie musical. Donc voilà, j'ai rajouté tous ces trucs-là que lui n'a pas eu dans son orphelinat, c'est de dire à quel point c'était l'enfer sur terre. Oui, alors.
Moi, ça n'a pas réellement de rapport avec le livre, mais je me disais, que diriez-vous à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture ?
Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'écriture ? Alors, d'écrire. Ça paraît bête, mais en fait, il y a plein de gens qui veulent se lancer dans l'écriture et qui passent leur vie à réfléchir sur comment ils vont se lancer dans l'écriture et qui meurent sans avoir écrit le livre. J'ai le plaisant à peine. Donc, écrire, parce que aussi le fait d'écrire va évidemment améliorer les choses. Deux, ce que je disais tout à l'heure, faites un plan. Je sais que c'est chiant, donc moi je trouve ça très chiant, mais je le fais sur chacun des livres. Je sais où je vais. Ne partez pas au fil de la pluie, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes à un stade, a priori, si vous voulez lancer la lecture, et c'est vrai pour tout, hein, mais bon, vous êtes inexpérimenté, c'est normal. Donc vous commencez à écrire un truc sur une petite idée en vous disant « je vais voir où ça va okay ». Vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez. Vous vous arrêtez, ça va nulle part, c'est l'impasse. Vous avez pris un mauvais embranchement, il n'y avait pas de plan, vous ne savez pas où était le mauvais embranchement. Vous avez 25 pages et vous dites je suis nul, j'arrête, vous n'écrivez plus jamais. Ce danger-là. Donc, écrivez un plan. Et si vous n'avez pas un plan, écrivez une nouvelle. Mais sachez ce que vous racontez. À Hollywood, moi je viens de l'école du cinéma américaine, je fais mon premier film au cinéma. De l'école intellectuelle, hein. J'ai pas fait des écoles de cinéma moi, mais l'école d'écriture américaine, ça ne viendrait pas à l'idée de ne pas raconter l'histoire, ça ne viendrait pas à l'idée de ne pas avoir d'arche narrative, de ne pas savoir où va le personnage dont vous avez raconté le récit. Donc ça, c'est hyper important. Et enfin, dernière chose, si vous voulez vous lancer dans l'écriture professionnelle, mais si vous voulez vous lancer dans l'orfèvrerie, c'est vrai, et si vous voulez vous lancer dans le sport, c'est vrai, c'est de ne jamais renoncer. Parce que, en fait, vous allez prendre des coups. Soit vous écrivez pour le fun, ça c'est autre chose, moi je parle d'une carrière. Le truc fou, c'est le nombre de coups qu'on reçoit, métaphorique, hein, on va pas frapper, mais le nombre de fois qu'on va au tapis, c'est-à-dire les échecs commerciaux. Moi j'ai eu des succès cinéma, puis j'ai eu des gros échecs cinéma. Avant que tout le monde me dise que j'étais génial avec ma reine, sur mon dernier film en France, tout le monde me disait que j'étais le pire réalisateur du pays. Et donc tu prends des coups comme ça, et quand on m'a dit « on adore ce que tu fais, mais c'est trop original », c'est un autre coup, en fait, parce que ça voulait dire « je ne pouvais pas m'exprimer ». Donc, résister, survivre. Il y a une image que j'utilise tout le temps, mais qui m'est venue un jour, qui était très vraie pour moi, qui est vraie pour tous les gens qui font ces métiers-là, c'est le métier artistique ou les métiers un peu originaux, c'est comme si vous attendiez à un arrêt de bus. Imaginez un paysage dans l'Arizona avec rien, à perte de vue, sauf un arrêt de bus, et on vous dit, si tu veux aller là où tu veux aller, il faut que tu attendes à l'arrêt de bus, parce qu'il y a un bus qui va passer. Et donc vous vous mettez à l'arrêt de bus, et ça c'est le début de votre carrière. Et puis, au bout de 10 ans, le bus il va passer. Et vous vous dites quand même, il n'a jamais passé le bus. On vous a dit, ne t'en va pas, il va passer le bus. Mais au bout de 10 ans, il y a des gens qui n'en peuvent plus. Moi, j'en ai rencontré des gens comme ça. Ces gens-là, ils se disent, bon, je vais couper là-bas par les montagnes et je vais retrouver une route. Okay ? Et ils partent vers les montagnes, ils abandonnent leur truc, ils disparaissent derrière la montagne et là, le bus passe. Ok ? Si vous n'êtes pas là au moment où le bus passe, si vous vous êtes dégonflé, si vous avez décidé de couper par la montagne, vous allez alors rater le bus. Donc, il y a un tel boulot de persévérance dans les métiers artistiques. Une nouvelle fois artistique, artisanale, une telle persévérance, et il y a de tels coups à recevoir, de tels échecs à accepter qu'il y en a beaucoup qui se découragent. Mais en fait, quand on a piqué ça, quand on est préparé à ça, ça se passe bien. C'est jamais agréable, l'échec, mais ça fait partie de l'apprentissage. On n'a pas trop la culture de l'échec en France. En France, l'échec, c'est l'échec. C'est mal. Aux États-Unis, l'échec, c'est une marche. C'est une marche sur laquelle tu montes pour aller plus loin. Donc, voilà, tout ce que je peux te dire à quelqu'un qui voudrait faire de l'écriture ou quelque chose d'artistique à un niveau professionnel.
Merci, merci beaucoup.
Je suis désolée,
Léla,
il faut qu'on arrête.
Mais tu peux répondre après.
Il y a des cas qui vous attendent. Et
on va passer
à la proclamation du prix du cœur
de
cette année. Merci.
Bon, merci pour cette superbe.